France Info.
Près des Pyrénées, mais également près de la Méditerranée.
Merci Christine Peña. France Info, 5h. Et à la une de ce 17 décembre, le gouvernement qui annonce l'accélération de la vaccination des troupeaux contre la dermatose, mais qui ne calme pas la colère agricole. À la une également, un maire et ses adjoints qui démissionnent pour ne pas avoir à marier un étranger qui a l'obligation de quitter le territoire. La colère d'Emmanuel Macron face à une fausse vidéo d'IA qui fait croire à un coup d'État en France. Les propos explosifs d'une des très proches de Donald Trump sur son patron. Et puis nous irons au cinéma pour l'agent secret récompensé deux fois à Cannes et qui sort aujourd'hui. Des agriculteurs ont aspergé la préfecture du Gers de Lisier à Auch cette nuit et de nouveaux blocages sont attendus partout en France dans la journée. La mobilisation ne faiblit toujours pas. À l'appel de deux syndicats agricoles face à la dermatose nodulaire contagieuse, toujours pas de changement majeur dans la politique de gouvernement. Il a tout de même confirmé hier soir l'accélération de la vaccination dans le sud-ouest après une réunion à Matignon. La ministre de l'Agriculture confirme que 750 000 bovins seront vaccinés dans 10 départements du quart sud-ouest, mais Édouard Marguet, Annie Genevard, elle reste sur le protocole actuel.
L'abattage du troupeau à la moindre vache malade reste la règle, mais la ministre de l'Agriculture compte sur la vaccination pour éviter des nouvelles contaminations et empêcher ainsi la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse au reste du pays. C'est pourquoi elle annonce une campagne exceptionnelle et accélérée dans le sud-ouest, coordonnée par un préfet.
Au total, la vaccination concernera les départements de l'Ariège, de l'Aude, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et ceux du cordon sanitaire, le Gers, l'Hérault, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn. Cela concerne 750 000 bovins. Et nous vous assurerons d'une vaccination la plus rapide possible.
Pour l'Ariège précisément, Annie Genevard s'engage à vacciner 1000 élevages avant le réveillon du 31 décembre. Elle renforce également les contrôles pour faire respecter l'interdiction de mouvement du bétail. Ce plan ressemble à celui de la dernière chance avant la vaccination généralisée en France, ce qui mettrait la filière bovine en danger avec la fin des exportations pendant 8 à 14 mois.
Merci Édouard Marguier. Un nouveau procès requis contre Nicolas Sarkozy par le parquet national financier, contre son épouse aussi, Carla Bruni. Ils sont soupçonnés avec 9 autres personnes d'avoir été impliqués dans la rétractation de l'intermédiaire Ziad Takieddine dans le dossier libyen. C'est désormais un juge d'instruction de décider de les renvoyer ou non devant un tribunal. C'est une première en France, à Chécy, en Seine-et-Marne. Un maire a décidé de démissionner avec ses adjoints pour ne pas avoir à célébrer le mariage d'un étranger qui a l'obligation de quitter le territoire français sous OQTF. La justice a tranché la semaine dernière en faveur du couple. Elle a ordonné le mariage d'ici la fin de l'année. Alors Marc Bertrand, les élus ont décidé de se démettre.
Il n'y a plus d'officier d'état civil à la mairie, plus aucun mariage n'est possible. C'est la dernière solution qu'a trouvé le maire, qui refuse depuis 9 mois de marier cette Finlandaise avec un Algérien en situation irrégulière. Incompréhensible pour l'avocate du couple, maître Elsa Hugues.
Moi, je suis personnellement choquée par cette attitude qu'un maire refuse d'appliquer la loi. Quand on est en situation irrégulière, on a quand même des droits. Et le fait de se marier, c'est un droit qui est prévu par la Constitution, parce qu'on a le droit de tomber amoureux, parce qu'on a le droit de vivre et d'exister, même si on n'a pas de titre de séjour.
L'homme a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais elle n'a pas été exécutée dans les temps. Le seul séjour irrégulier n'est pas un délit, et l'enquête de police a conclu à un mariage sincère. Le maire ne peut donc plus s'opposer au mariage, s'agace le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier.
J'ai dialogué avec le maire, en espérant que les choses puissent se faire en bonne intelligence. Je constate que ça n'a pas été le cas. Et donc, il est tout à fait possible que des suites pénales soient envisagées.
Le maire n'a pas voulu nous répondre, mais dans un communiqué, Olivier Bourgeot dit vouloir rester fidèle à ses convictions en refusant de célébrer le mariage d'une personne qui, selon lui, ne devrait pas être sur le territoire.
Et ce couple a déjà porté plainte au mois d'août contre la mairie pour refus de célébrer le mariage. Ce délit, il est passible de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Emmanuel Macron renversé par un coup d'État et un mystérieux colonel. C'est le scénario assez improbable qui est relayé dans une vidéo très diffusée et très commentée sur les réseaux sociaux qui n'a pas du tout amusé l'Élysée et le chef de l'État. C'est une fake news et le président de la République en a parlé. hier à Marseille lors d'un grand débat avec les lecteurs du journal La Provence. L'occasion aussi pour lui de mener une violente charge contre Facebook, Paul Barcelone.
Il y a dans cette vidéo tous les attributs de la parfaite chaîne d'info en continu. Une journaliste en direct dans les rues de Paris, micro live 24 en main devant une petite foule agitée.
À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée et la possible chute du président Emmanuel Macron. Mais les autorités...
Problème, tout est faux, archi faux, et cette vidéo, vue plus de 12 millions de fois, Emmanuel Macron la découvre avec stupeur.
Dimanche, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet.
Mais à l'inquiétude succède l'impuissance quand le président et son équipe demandent officiellement le retrait.
Réponse de Facebook, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sérénité des débats publics et donc ils nous mettent en danger.
Un danger d'autant plus palpable que l'Élysée n'a pas encore identifié l'origine de cette vidéo ni ses créateurs, à l'heure où Emmanuel Macron redoute des manipulations et des ingérences étrangères dans la perspective des élections municipales, puis de la présidentielle en 2027.
Merci Paul Barcelone. On l'entendait, Emmanuel Macron durcit le ton contre Meta, la maison mère de Facebook. Et aux États-Unis, Donald Trump lui menace les Européens de représailles si la régulation des entreprises du numérique, dont Meta, n'évolue pas, si l'Europe ne desserre pas son étau avec ses régulations. Donald Trump qui fait face d'ailleurs à une nouvelle polémique. Une longue enquête publiée dans le magazine Vanity Fair sur Suzy Wiles, c'est sa chef de cabinet qui s'est confiée régulièrement cette année à une journaliste. Wiles, c'est l'une des plus proches conseillères de Donald Trump et elle n'hésite pas, dans ses confessions, à critiquer plusieurs membres du gouvernement. Elle lève le voile sur la vie parfois agitée des coulisses de la Maison Blanche en cette première année du second mandat de Donald Trump, Franck Madvon.
Suzy Wiles est une figure de l'ombre à l'écart des caméras, rare en interview. Cette femme respectée de 68 ans a souvent la dent dure quand elle se confie au journaliste Chris Whipple. Elle estime que le vice-président J.D. Vance, longtemps sévère avec Donald Trump, s'est converti par calcul politique. Elle qualifie Elon Musk de consommateur avoué de kétamine, parfois mal dosé. Wiles n'est pas tendre avec la ministre de la Justice, Pam Bondi, accusée d'avoir mal géré l'affaire Epstein en promettant des révélations inexistantes à un groupe de commentateurs conservateurs. Les dossiers Epstein, justement, Trump est dedans, assure-t-elle. Mais il n'a rien fait d'horrible. Le président a un temps fréquenté le prédateur sexuel, alors que les deux hommes étaient, selon Wiles, de jeunes célibataires. Pour la chef de cabinet de la Maison-Blanche, dans l'ensemble loyal, Trump a la personnalité d'un alcoolique. Il ne boit pas d'alcool, mais considère qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Le président lui-même ne dément pas et défend Suzy Wiles, qui fait un boulot fantastique.
Franck Madvon à Washington pour France Info. Une info foot, le sacre d'Ousmane Dembélé. Le Français remporte le trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l'année, lui qui a déjà remporté le dernier Ballon d'Or. Autre information qui va intéresser les fans des soirées foot la saison prochaine. Ligue 1 Plus, la chaîne créée par la Ligue, diffusera l'intégralité des matchs de chaque journée, 9 au total. Les rencontres ne seront plus sur la chaîne beIN Sports. Et si vous êtes plus soirée cinéma, voilà l'une des sorties du jour en salle. Film qui a marqué le dernier festival de Cannes, reparti avec deux prix, c'est L'agent secret du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho. Entre comédie et polar d'espionnage, un film assez inclassable qui se passe durant la dictature des années 70, Matteo Mestracci.
Et oh non, c'est pas le sort.
1977, le Brésil est en dictature depuis 13 ans lorsque Marcelo, personnage mystérieux, arrive dans la ville de Recife, officiellement pour rentrer chez lui et retrouver son fils, mais son passé d'agent secret refait surface. Avec ce quatrième long-métrage de fiction, Kleber Mendonça Filho signe son meilleur film, mélangeant son style burlesque et imagé, l'ambiance moite du Brésil des années 70 en période de carnaval et un propos politique pas si anodin au regard de l'état du monde en 2025.
Le Brésil est frappé d'amnésie. Il aime prendre des pilules pour oublier. Le film se passe en 1977, mais en 1979, le gouvernement militaire a fait voter une amnistie. Il ne s'est rien passé. Tout le monde est libre. On ne paye pas pour les crimes commis. C'est un vrai problème dans la société brésilienne.
Fait rare qui prouve ses grandes qualités, l'agent secret a remporté deux distinctions au palmarès du dernier festival de Cannes, prix de la mise en scène et interprétation masculine pour Wagner Moura, vu en Pablo Escobar dans la série Narcos.
Merci Matteo Maestracci pour ce conseil cinéma. Christine Peña, 5h09, c'est l'heure de votre météo avec le retour d'un temps plus sec.
Oui, beaucoup plus sec effectivement, mais très nuageux sur les trois quarts du pays. Le soleil, on va le chercher dans le sud, hein, autour des Pyrénées. En Méditerranée, ça y est, le soleil revient. Vallée du Rhône également, jusqu'au sud de l'Alsace. Sur les Alpes également, ils vont scintiller au soleil. Nous avons des températures toujours un peu plus élevées que la normale, de 2 à 4 degrés de plus. On aura 7 à Strasbourg, mais 11 à Paris, à Lille, également à Mulhouse, Besançon et La Rochelle, 14 à Clermont-Ferrand comme à Toulouse, et jusqu'à 17 à Perpignan, à Nice et à Toulon aussi.
À Toulon, la plus belle ville du monde. Merci beaucoup, Christine Peña.
France Info, première plateforme d'actualité. Source, Médiamétrie Net Ratings.
Chaque jour, vous êtes 4 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
Un témoignage exceptionnel à venir sur France Info. Notre reporter au Proche-Orient a rencontré la mère du dernier otage israélien encore à Gaza. Il est présumé mort, mais sa famille a encore un infime espoir. Ce sera dans 10 minutes. Commençons d'abord par Emmanuel Macron qui veut taper les consommateurs de drogue au portefeuille.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Avec l'annonce d'une amende de 500 euros au lieu des 200 aujourd'hui, amende délictuelle forfaitaire contre les consommateurs de drogue. Le chef de l'État l'a dit en visite hier à Marseille, ville gangrénée par le narcotrafic.
Moi j'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure dans des quartiers, d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue et qui sont généralement pas des mêmes milieux sociaux. Alors il y a quelques années, on disait faut qu'il y ait une poursuite pénale. Comme on n'arrivait pas à faire une poursuite pénale, ça prenait un temps fou, parce qu'il fallait ramener au poste, etc. On a mis en place, c'est une innovation des dernières années, une amende forfaitaire délictuelle. Tout de suite, on pouvait mettre l'amende. Ça a permis de commencer à avancer les choses. Mais maintenant, on va changer drastiquement sur deux trucs. Un, les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques, la justice à aller recouvrer. Deux, on va le passer à 500 euros l'amende. Parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air.
Alors, passer cette amende de 200 à 500 euros, est-ce une bonne idée pour tenter d'endiguer le narcotrafic? C'est loin d'être suffisant, répond Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat Unité.
Bien évidemment, c'est d'autres annonces que nous attendions sur Marseille pour combattre les narcotrafiquants. On peut saluer la venue du président de la République à Marseille, mais c'est pas la première fois qu'il vient et c'est pas la première fois qu'il nous annonce qu'il veut combattre le narcotrafic. Toutes les pistes doivent être exploitées. Mais si on vient sur l'amende forfaitaire à 500 euros, il faut retenir que d'abord c'est un délit qui est passible d'un an de prison avec 3 750 euros d'amende. Et là, on est sur une amende forfaitaire à 200 euros qui va passer à 500. Vous avez 70% des consommateurs qui ont été verbalisés, enfin, un amende forfaitaire qui ne paye pas, 70% qui ne paye pas. Mmh. Donc en fait, finalement, la dépénalisation existe déjà. Donc je crois que le consommateur, si on reste sur le consommateur, on doit bien sûr le sanctionner, mais parallèlement, si, toujours sur le, je parle bien du consommateur, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du narcotrafic en France, mais si on est sur le consommateur, on doit aussi faire des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation.
Mais ça, vous savez, ça existe déjà, Bruno Bartosetti.
Insuffisamment, d'une manière insuffisante. Ça a été beaucoup plus prononcé sur l'alcool, par exemple. C'est comme ça qu'on a pu faire baisser la consommation d'alcool avec la sanction, mais également l'information et les campagnes de sensibilisation. Ça doit être fait dans nos écoles d'une manière beaucoup plus puissante. Vous savez, quand on parle de consommation de stupéfiants, on pense aux jeunes. Mais vous avez plein de personnes de 40, 50 ans, 60 ans qui sont addicts. Et c'est pas la sanction des 500 euros qui vont les empêcher de consommer. Ils sont addicts. Donc, il y a une prise en charge sanitaire en France et qui doit être appliquée et de manière très sérieuse. Toujours sur ce volet-là. Après, si on va sur le volet du narcotrafic, là, bien sûr, il y a d'autres mesures beaucoup plus adaptées, beaucoup plus politiques. Alors, qui doivent être prises de manière
beaucoup plus
sévère.
Vous avez parlé de la prévention, plus de prévention pour lutter contre la consommation de stupéfiants et donc contre le trafic de drogue. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir, aimé entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Marseille?
La priorité, c'était de donner la possibilité à la police, mais aussi aux douaniers, mais aussi aux gendarmes, mais aussi au fisc, de travailler sur le blanchiment d'argent. Je n'ai pas entendu parler de blanchiment d'argent. Ce blanchiment d'argent, il existe dans notre société, dans des petites entreprises.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous préconisez, vous ?
Les groupes d'intervention régionale où on regroupe les douaniers, les policiers, les gendarmes et les impôts, on doit leur donner beaucoup plus de moyens. Ce sont des groupes qui existent depuis 25 ans. On doit taper le portefeuille. Aujourd'hui, on est timide dès qu'il s'agit de saisie-attribution. Lorsqu'on tombe sur une personne qui peut pas justifier la provenance d'une voiture qui coûte 80-90 000 euros, on doit lui saisir son matériel, on doit lui saisir sa voiture. Ce n'est plus tolérable d'accepter cette circulation d'argent dont on ne connaît pas la provenance dans notre pays et à l'international. C'est très important aussi d'accentuer les contrôles sur les ports, Marseille, Le Havre. C'est l'Europe qui est empoisonnée. Il n'y a pas que la France, c'est l'Europe qui est empoisonnée par ces trafics. Et quand vous voyez qu'on ne peut contrôler que 2 ou 3% des containers à Marseille, ça veut dire que la lutte, elle va être de toute façon la lutte contre le narcotrafic, elle sera jamais terminé. La seule demande, c'est qu'on puisse à un moment donné faire tomber ces trafiquants, c'est qu'on puisse les affaiblir au maximum, parce qu'on a une société qui est malade, et c'est vrai que je reviens au consommateur, on a une société où on consomme beaucoup, donc il y a beaucoup de points qu'on doit retenir pour pouvoir lutter contre le narcotrafic.
Bruno Bartosetti, le secrétaire national Zone Sud du syndicat Unité, syndicat de policiers. On l'entendait, Emmanuel Macron a donc mis en cause à nouveau les consommateurs de drogue dans cette augmentation du narcotrafic en France. Des consommateurs dont les habitudes ont évolué, notamment sur les produits de la cocaïne de plus en plus consommée, mais aussi des drogues de synthèse. Benjamin Illy, le marché des drogues de synthèse en France entre 2010 et 2023 a augmenté de 637%. Reportage.
Un quartier du centre de Paris avec ses terrasses bondées et ses boîtes de nuit encore fermées à l'heure où nous croisons ce groupe de jeunes femmes âgées de 23 ans.
C'est-à-dire les drogues de synthèse ?
Ecstasy, MDMA, est-ce que vous en avez déjà consommé ? Même une fois ?
Plusieurs fois, mais là je réduis en tout cas, je prends plus du tout tout le temps.
À leur demande, nous préservons leur anonymat et nous avons modifié leur voix.
Mais la première fois que j'en avais pris, c'était à 3 ans. Pendant 2 ans, j'en prenais à peu près une fois par mois.
C'est dans un contexte festif, toujours.
Oui, c'est que festif. En vrai, oui, c'est même pas tabou. J'ai des copines, des lycées, elles en prenaient. Hein. Un peu tout mon entourage en prend. Même, c'est plus rigolo, j'ai l'impression. Enfin, pas rigolo, mais c'est plus normal de prendre un extra de temps en temps que de taper de la coke tous les week-ends, quoi. La coke, c'est plus jugeable, on va dire.
Ouais.
J'ai plus de copains qui vont être en mode « Ah, prendre la coke, bah... »
L'ecstasy.
Je sais que j'ai diminué parce que j'étais beaucoup plus anxieuse. C'était les pires redescentes de ma vie.
Un extra, combien ça coûte, moi ?
10 euros.
Non, mais non, c'est incomparable avec juste fumer un joint ou prendre ça, quoi. Enfin, c'est très bien que c'est de la drogue dure, en fait.
Nous avons rejoint l'hôpital Marmottan à Paris, à mes côtés, Camille Charvet.
Je suis psychiatre et je suis spécialisée dans les addictions.
Que vous inspire la parole de ces jeunes femmes ?
Assez représentatif de la banalisation des produits chez les jeunes. Avant la majorité, ce qu'on ne voyait pas tellement avant, on voyait vraiment le cannabis et l'alcool qui étaient prédominants chez les jeunes. Et maintenant, on voit une diversité des produits dès l'adolescence. C'est vrai que la cocaïne a un potentiel addictogène qui est bien plus fort que l'ecstasy. Le problème des nouveaux produits de synthèse, comme on les appelle, c'est qu'il y en a des nouveaux.
Est-ce qu'on peut citer ces produits qui émergent ?
Les cathinones, ce sont des stimulants, nouvelle forme de cocaïne, mais de synthèse, qui est extrêmement addictogène et qu'on voit énormément consommer chez les jeunes d'une part et dans le chemsex d'autre part. Des produits qui sont à peu près deux fois moins chers que la cocaïne, ils sont aussi plus accessibles parce qu'on les trouve facilement sur internet, en ligne. On peut les trouver, enfin j'ai des patients qui ont des réseaux sur Instagram, sur TikTok, sur Telegram.
Est-ce que ces drogues de synthèse peuvent prendre l'ascendant sur les autres drogues dans les années à venir selon vous ?
En tout cas, on voit qu'en termes de nombre et de production, c'est démentiel. C'est-à-dire que là, on dénombre à peu près 1000 produits de synthèse en Europe. On arrive à peine à les répertorier parce que les laboratoires vont très très vite. Donc il est possible que ça prenne le pas sur le reste, oui bien sûr.
L'OFDT estime à plus de 65 millions de comprimés les quantités consommées d'ecstasy MDMA en France en 2023. En 2010, c'était 11 millions.
France Info, reportage signé Benjamin Illy à Paris. Un témoignage exceptionnel à venir sur France Info. Notre reporter au Proche-Orient a rencontré la mère du dernier otage israélien encore à Gaza. Il est présumé mort. Sa dépouille doit être rendue par le Hamas et ses alliés, mais sa famille a encore un infime espoir de le retrouver vivant. Ce sera dans un instant. Revenons d'abord à l'essentiel de l'actualité.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
L'info en une minute à 5h20, c'est avec vous. Et à la une, les éleveurs mobilisés qui ne sont pas convaincus par le gouvernement.
La Confédération Paysanne et la Coordination Rurale appellent à de nouvelles actions partout en France. Aujourd'hui, les éleveurs s'opposent toujours à l'abattage systématique des troupeaux. En cas d'apparition de la dermatose, le gouvernement promet une accélération de la vaccination dans le sud-ouest avec 750 000 bovins ciblés. Les vétérinaires de l'armée vont être mobilisés. Greenpeace dénonce une mauvaise nouvelle pour le climat. L'ONG réagit à cette annonce de la Commission européenne. L'institution propose de revenir sur l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves dès 2035. Elle autorise la poursuite de la commercialisation de certains véhicules non électriques. Les contours de cette affaire sont encore flous. Les serveurs de la messagerie du ministère de l'Intérieur ont été victimes d'une cyberattaque. Les hackers ont pu ensuite accéder à des fichiers de police. On ne sait pas quelles données ont pu être volées précisément. Et puis une amende de plus d'1 million d'euros, la peine requise contre Lafarge, le cimentier français accusé d'avoir financé le terrorisme en payant des groupes djihadistes en Syrie pour maintenir son activité sur place. Jusqu'à 8 ans de prison aussi requis contre 8 prévenus, notamment des cadres de Lafarge.
C'est l'une des conditions pour passer à l'étape suivante du plan de paix au Proche-Orient. Le Hamas et ses alliés doivent restituer toutes les dépouilles d'otages encore dans l'enclave palestinienne. Et à l'heure actuelle, il n'en reste qu'une, celle de Ran Gvili, un policier enlevé lors du 7 octobre alors qu'il était venu au secours des personnes attaquées. Il est présumé mort, mais sa mère, Talik, ne peut s'y résoudre. Vous l'avez rencontré pour France Info, Thibault Lefebvre.
Talik veut encore croire à l'impossible.
Il y a 0,001% de chance qu'il ait reçu un traitement et qu'il soit vivant. Mais on y croit vraiment. C'était un homme très fort. Dans une vidéo, on l'a vu allongé sur une moto près de l'hôpital Al-Shifa. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, il était en vie. Si tu es mort, tu ne peux pas te maintenir sur une moto sans tomber. On veut croire qu'ils l'ont très bien caché.
Et pourtant, les services de renseignement de l'État hébreu ont les preuves de la mort de son fils, qui est donc plus de 800 jours après le massacre du 7 octobre, le dernier otage israélien dont la dépouille est encore dans l'enclave.
Après son enlèvement, nous faisions des blagues, nous étions très cyniques. On se disait que peut-être Ran sera le dernier otage parce qu'il prend toujours soin des autres. Et ce que l'on racontait à ce moment-là dans ces blagues, c'est exactement ce qui s'est passé.
Ran Gvili est aujourd'hui plus qu'un symbole. De la restitution de son corps dépend désormais la suite du plan Trump.
Ran must come home. And we don't go to
Ran doit rentrer, sinon nous ne passerons pas à la phase 2 du plan de paix à Gaza. Ce n'est plus seulement l'histoire de Ran, c'est désormais une question stratégique. La situation au Moyen-Orient repose sur ses épaules.
Pendant l'entretien, Talik n'a cessé de toucher le pendentif avec deux rubans jaunes qu'elle ne quitte plus.
Double yellow is 2 years over.
Deux rubans donc, pour les plus de 2 ans, dit-elle, qui la sépare du jour où son fils a définitivement quitté la maison.
Témoignage recueilli par Thibault Lefebvre, correspondant au Proche-Orient de France Info. Il est 5h23, c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec un cinéaste ce matin.
Bonjour Vincent Munier.
Bonjour.
Vous êtes photographe et cinéaste animalier. Le public vous a découvert grâce à vos images souvent époustouflantes. Vous êtes d'ailleurs le papa de La Panthère des Neiges, sorti en 2021, en co-réalisation avec Marie Amiguet et avec à vos côtés un certain Sylvain Tesson. Film qui vous a permis d'obtenir le César du meilleur documentaire. Vous signez aujourd'hui la réalisation du film Le Chant des Forêts. C'est une invitation à découvrir les forêts des Vosges, un peu celles de Norvège, celles qui vous ont tant appris, grâce à votre père d'ailleurs, Michel, naturaliste. Ce film vous permet avant tout de laisser une trace et d'autre part de transmettre à votre tour, à votre fils qui s'appelle Simon. Nous découvrons donc trois regards, trois générations, unies autour d'une même fascination pour la vie sauvage. Le spectateur est plongé au cœur de ce lieu habité par toutes sortes d'animaux. Donc il y a des cerfs, des biches, des oiseaux rares comme les piques noires, des renards, des lynx aussi. Ce film raconte la nature, mais avant tout, il vous raconte vous et votre famille. Je crois que c'est la première fois que vous nous tendez autant la main vers ce qui vous touche le plus et vers la personne que vous êtes au fond de vous-même et les personnes que représente cette famille.
En tout cas, oui, c'est là, je m'ouvre un petit peu, c'est vrai. Pourtant, on est une famille assez pudique, mais j'avais cette envie de partage, en tout cas. J'ai bien conscience du privilège que j'ai eu d'avoir grandi dans une famille comme celle-ci, avec la forêt pas très loin. Et j'avais vraiment cette envie de partager ça. Les Vosges, enfin, c'est là où j'habite en permanence, c'est là où j'ai tout appris, c'est encore plus fort, quoi. Et puis, j'y ajoute une dimension un peu plus personnelle. En effet, il y a cette transmission entre trois générations.
Le prédateur que nous sommes, effectivement, pose les armes dans ce film. C'est ça qui est très fort,
en fait,
d'ailleurs.
C'est ça,
il n'y a
ouais.
aucune arme. La seule l'arme finalement qui reste, ce sont nos cinq sens. Vous les mettez d'ailleurs à rude épreuve, hein, parce ouais. qu'on entend le bruit des oiseaux, le bruit de la forêt, même le bruit des arbres, l'écorce, c'est assez fou, on entend presque l'humus pousser. Est-ce que c'est pas ça, la force de votre travail, Vincent Munier, depuis vos débuts, c'est-à-dire de vous effacer, parce que ça nécessite une humilité colossale que celle d'observer le monde sauvage?
Oui, en tout cas, c'est ça. Sur le terrain, il se passe tellement de choses difficilement descriptibles. Les mots ne sont pas assez forts, en fait, je trouve. Et moi, j'aimerais qu'on ait le même sentiment que le fait de rentrer dans une cathédrale quand on rentre dans une forêt, c'est plein de présences invisibles qui sont là. C'est plein, comme dit mon père, c'est plein de petits cœurs qui battent. Et nous, le fait de s'effacer, on va vivre des moments hyper intenses. Pour moi, ce sont des œuvres d'art. Et vous avez raison, la dimension sonore dans ce film, le son est aussi important que les images. Et parfois, il y a même un écran noir pendant une minute. Et je vous invite à, comme si on était à l'affût, sous un sapin, sous un camouflage où on voit que dalle, d'écouter, quoi, d'entendre les pas d'un lynx qui s'approche de nous, qui feule de plus en plus près. En fait, c'est vraiment ce film. J'ai essayé de recréer les moments de manière assez sincère et authentique pour vous faire vibrer comme nous, on vibre dehors, quoi.
Je voudrais juste qu'on parle de ce que dit votre père à la fin. C'est assez fort. Il dit, pendant que les images de cette sublime forêt défile, il dit « Toute la nature est un éternel recommencement. On est, on vit, on meurt, on participe à ce mouvement. Nos origines sont là dans l'humus. On est dans ce qui semble. »
On est dans ce qui s'en va. Et ouais, moi je trouve ça fort, mais moi j'aimais bien cette image. Souvent, on trouvait une forêt un peu sale quand il y a des arbres morts, ou alors une forêt qui peut être dangereuse si un arbre nous tombe dessus. Et j'aime beaucoup cette image d'un squelette tout moussu d'un arbre sol sur lequel vient pousser, vient grandir des petits sapins, quoi. Ils viennent plonger leurs racines dans leur ancêtre pour grandir. Il y a un parallèle évidemment entre Simon, mon fils, et son grand-père. Et ça, ça fait une résistance par rapport à ces prochains défis-là, réchauffement climatique, parce que nos forêts, que ce soit dans les Vosges ou partout ailleurs en France, vont subir des sécheresses, vont subir des tempêtes, vont subir des arrivées de virus ou de scolytes ou d'autres petites bestioles. Donc plus on est sur des forêts comme le Grand Tétras nous les a montré, des forêts diversifiées avec des essences différentes, d'âges différents, des arbres morts, et plus on va avoir une résistance à ça, à ces grands défis.
On comprend que ça passe par l'ego, hein, quand même. Hein,
énormément.
Munier. C'est-à-dire que énormément. Votre père, d'ailleurs, quand il raconte l'image du tétras, la première émotion qu'il a eue avec cet animal, il parle de cet oiseau fantôme, de ce besoin, lui, de devenir invisible. Il faut quand même mettre l'ego de côté, hein, pour accepter d'être invisible.
C'est fascinant, quand même. Donc, et ça nous amène à beaucoup plus d'humilité. Et en effet, cette capacité à s'effacer, à se retirer, à rentrer, c'est franchement ça. Parce que moi, ce film, il invite aussi les gens à aller dehors. Le dehors, c'est une réponse au dedans, dans le sens où on se fait du bien à l'intérieur, franchement. Donc, il faut quand même aller dehors. Mais après, on a une responsabilité. Comme tout est en place, tout est en ordre, attention de pas tout foutre en l'air, quoi. Donc, sur la pointe des pieds. Et c'est ce qui m'a inculqué, mon père. Et dans ce film, j'espère que c'est ça. Comment est-ce qu'on y va? Comme un lynx à pas feutrer, tout doucement. On se met dans la peau d'un lynx, on s'efface, on regarde. Et franchement, on va se nourrir de choses, mais tellement belles, accessibles à tous. On s'échappe de la consommation. Et c'est des choses qui sont là, qui sont gratuites et qui nous font un bien fou sans qu'on s'en rende compte.
Merci beaucoup, Vincent Munier, d'être passé dans Le Monde, Élodie, sur France Info. Votre film documentaire, Le Chant des Forêts, est un bijou. C'est une belle invitation de reconnexion pour nous donner envie davantage de prendre soin de ce qui nous entoure. Merci beaucoup.
Merci, Élodie.
Et merci à vous, Élodie Suigo. On vous réécoute sur l'application Radio France.
France Info Météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Christine Peña, toujours beaucoup de grisaille.
Mais oui, de la grisaille, des brouillards, un peu de bruine, on a pas mal de nuages. Les pluies font une pause, en revanche, c'est dégagé près des Pyrénées, autour de la Méditerranée après les pluies de ces dernières heures assez conséquentes. Nous avons un temps beaucoup plus calme, très ensoleillé cet après-midi. On a également des brouillards qui se sont formés du côté de la vallée du Rhône. Nous avons ce soleil qui remonte jusqu'au Lyonnais et jusqu'au sud de l'Alsace. Alors, sous les nuages, peu de différence, peu d'amplitude thermique. Il fait déjà entre 8 et 10 degrés. On aura la même température quasiment. Il fera jusqu'à 11 à Paris et Lille. Alors, ce matin, on trouve quelques gelées quand même dans le nord-est. Zéro à Metz et Strasbourg cette saison. Mais sinon, il fait souvent autour de 8-10 degrés déjà. On a un petit 2 à l'Orient, un peu plus froid peut-être du côté de la Bretagne. Et puis 11 à Paris et Nice en ce moment. Il fera 11 également du côté de Paris cet après-midi comme à Lille et de 15 à 17 sous le soleil près des Pyrénées autour de la Méditerranée. L'arrivée du froid se confirme en revanche pour les derniers jours de l'année.
Merci beaucoup Christine Peña. Au programme de France Info d'ici 6h, le gouvernement qui promet d'accélérer la vaccination des troupeaux de bovins contre la dermatose pour calmer la colère. Ça ne suffit pas, répond la Confédération paysanne. L'une de ses porte-paroles est avec nous dans 5 minutes. Le syndicat agricole qui veut l'abandon de l'abattage des troupeaux quand un cas est détecté. À venir aussi, un nouveau procès requis contre Nicolas Sarkozy. Une deuxième affaire libyenne, en quelque sorte, qui concerne cette fois aussi Carla Bruni. On vous expliquera tout dans un quart d'heure. Merci d'écouter France Info de si bonne heure. Il est 5h30.
France Info. William Gecosta.
Commençons avec cette affaire digne d'un film de James Bond. Un ressortissant letton est soupçonné d'avoir installé un logiciel espion sur un ferry pour en prendre le contrôle. L'homme a été arrêté en fin de semaine dernière lors d'une escale du navire A7 sur la côte méditerranéenne. Mis en examen, placé en détention, il est soupçonné, David Di Giacomo, d'agir pour une puissance étrangère.
Quand le Fantastique fait escale à 7 vendredi dernier, ce ne sont pas des croisiéristes qui montent à bord, mais des agents de la DGSI. Deux membres d'équipage, un Bulgare et un Letton, sont immédiatement arrêtés par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Sur ce ferry de 188 mètres de long sous pavillon italien, les enquêteurs découvrent alors un petit outil technologique très mystérieux, une sorte de clé USB. Elle devait servir à prendre le contrôle du système informatique de ce géant des mers pouvant embarquer jusqu'à 2000 passagers. Dans quel but ? Acte de sabotage, action violente, toutes les hypothèses sont sur la table. Si le marin bulgare a été relâché, le ressortissant letton, lui, est au centre des investigations. La piste d'une ingérence russe est envisagée. Débarrassé de ce logiciel espion en cours d'analyse, le Fantastique, lui, a pu reprendre la mer.
David Di Giacomo, plusieurs centaines de personnes se sont recueillies hier après-midi au Bourget, près de Paris. Un hommage à Dan El Kayam, le jeune Français de 27 ans, tué sur la plage de Bondi Beach dimanche dernier à Sydney, en Australie, lors d'une attaque antisémite en marge d'un rassemblement de la communauté juive pour Hanouka. Les États-Unis de Donald Trump accentuent la pression sur le Venezuela. Washington annonce cette nuit un embargo sur le pétrole du pays qui transite par des bateaux pétroliers sous sanctions. Le pétrole, c'est la principale manne financière du régime de Nicolas Maduro au Venezuela, désormais classé comme organisation terroriste par la Maison-Blanche. Ils arrivent par centaines de millions en France chaque année. Les petits colis avec à l'intérieur des produits pas chers commandés sur Shein, Temu ou AliExpress, des plateformes en ligne chinoises critiquées pour la qualité de leurs produits. Des députés français, avec une mission spéciale de l'Assemblée, ont donc fait une trentaine de propositions, Luc Chemla, pour contrer ces géants de l'e-commerce.
Alors que l'Union européenne taxera à partir de l'été prochain tous les petits colis importés à hauteur de minimum 3 euros, le député LR Antoine Vermorel-Marquez veut, comme les sénateurs d'ailleurs, faire grimper la note en France à 5 euros dès janvier.
C'est par catégorie d'articles, donc si vous avez 3 articles différents dans le même colis, ça sera 3 fois 5 euros. Donc c'est une redevance que devront payer les importateurs et qui ira directement aux douaniers pour qu'ils aient plus de moyens pour contrôler.
Et multiplier le nombre de contrôles, car l'an dernier, le taux d'inspection des produits importés dans l'UE était de seulement 0,008%. Parmi les autres propositions, responsabiliser les plateformes en leur faisant payer le coût de destruction des marchandises non conformes. Et ce n'est pas tout, explique Romain Eskenazi, député PS.
Aujourd'hui, une place de marché n'est pas responsable des produits en vente sur son site internet. Il n'y a plus d'intermédiaires comme avant. Or, normalement, ces entreprises sont censées avoir un représentant sur le sol de l'Union européenne. On est dans une zone de non-droit et donc nous, on considère que si jamais le producteur n'a pas de représentant sur le sol européen, c'est la plateforme qui sera désignée importateur présumé et qui pourra encourir toutes les procédures judiciaires.
Pour responsabiliser les consommateurs, les députés recommandent également une campagne de sensibilisation sur l'impact, notamment environnemental, de chaque achat sur ces plateformes.
Et puis vous vous rappelez peut-être de cette opération à coup de poing médiatique du gouvernement début novembre qui avait ordonné de contrôler tous les petits colis qui arrivent en France. Et bien ce rapport dévoile que 8 produits sur 10 lors de cette opération étaient non conformes aux normes. C'était une formalité, le budget de la sécurité sociale a bien été définitivement adopté hier par un dernier vote à l'Assemblée. Il contient notamment la suspension de la réforme des retraites, désormais gravée dans le marbre. Près de 10 ans après le vote du Brexit, le Royaume-Uni va faire son retour dans le programme Erasmus qui permet aux étudiants européens de partir à l'étranger. Un retour prévu en 2027. Et puis du football ce soir à 18h. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe Intercontinentale qui oppose les meilleurs clubs des 6 continents footballistiques. Ce sera contre le Flamengo brésilien. Il est 5h34. Merci d'être avec nous.
France Info. 5h-6h. William DeCosta.
Les 1000 exploitations de l'Ariège seront intégralement vaccinées au 31 décembre contre la dermatose. 750 000 bovins au total dans le sud-ouest vont recevoir une dose dans les prochaines semaines. C'est la promesse de la ministre de l'Agriculture face à la colère qui ne retombe pas dans une partie du monde paysan qui dénonce l'abattage systématique des troupeaux touchés par cette maladie. Il y avait d'ailleurs une réunion d'urgence. Il y en a eu deux. Il y en avait encore une dans l'après-midi à Matignon. Alors, est-ce que ces mesures annoncées par le gouvernement sont satisfaisantes ? Pas du tout pour Hélène Delmas, porte-parole de la Confédération paysanne en Haute-Garonne, l'un des deux syndicats à l'initiative de ce mouvement. Elle reste opposée à cet abattage systématique.
On n'est pas du tout content des propositions faites par le ministre. Aucune évolution depuis le mois de juin, puisque on nous propose un vaccin à ce jour qui n'est pas là. Et la vaccination n'est pas la seule solution à cette maladie. Bon, on est habitué d'être déçu par le ministère de l'Agriculture, mais en effet, là, on se rend compte que on n'est pas du tout entendu. C'est pour ça que le mouvement va se renforcer. Et on espère et on appelle les citoyens à se mobiliser à nos côtés, puisqu'il ne faut pas d'abattage systématique. En fait, c'est
là-dessus, vraiment, la ministre de l'Agriculture, elle ne vous apporte aucune réponse. Et c'est vraiment une solution à ce stade qui est écarté. La règle, oui. Ça reste abattage du troupeau dès le premier cas détecté.
En effet, abattage systématique de tout le troupeau, alors que sur un troupeau d'une centaine ou 200 vaches, on peut en avoir qu'une ou deux malades. Donc, en cas d'épizootie, ce qu'on demande, c'est écarter la maladie en abattant l'animal malade et mettre sous cloche l'élevage et faire attention aux autres animaux.
Ce que dit la ministre, c'est qu'en fait, cet abattage systématique, c'est aussi une manière d'éviter la propagation de cette dermatose nodulaire contagieuse.
Alors, c'est une des solutions, mais ça veut dire que demain, on abat tous les troupeaux, le troupeau en France, parce qu'il y aura des contagions un peu partout. On se rend compte que ça n'a pas été une solution, puisque de toute façon, le virus s'est propagé. On l'a vu, si je peux faire le parallèle avec le virus de la grippe aviaire en volaille, où on a voulu vacciner en masse aussi les animaux. Et en fait, ça a été une gestion déplorable, puisque on a tué la filière canard et volaille en France. Et est-ce qu'on se demande vraiment si l'État français ne veut pas détruire la filière bovine aujourd'hui en France.
Hélène Delmas, cette mobilisation des vétérinaires volontaires, libéraux, retraités, en activité toute la France, des vétérinaires militaires, c'est un détail pour vous ?
C'est bien que les moyens soient déployés. Seulement, il faut aussi qu'on ait accès aux vaccins, puisqu'à ce jour, les vaccins ne sont pas disponibles. Donc, c'est bien qu'il y ait des bras, mais faut-il qu'il y ait des vaccins ? Et je le répète, la vaccination n'est pas non plus la seule solution.
Il reste encore une séance de rattrapage, si je puis dire. Le Premier ministre va recevoir les différents syndicats agricoles vendredi. Vous comptez y aller ?
Oui, on sera représenté au niveau national, bien évidemment. Et puis, de toute façon, nos revendications ne changeront pas et seront les mêmes que la plupart des syndicats, à savoir arrêter l'abattage systématique qui est en cours et qui ne veut pas être remis en cause par la ministre.
Mais jusqu'ici, en fait, vous n'avez pas obtenu gain de cause. Qu'est-ce qui pourrait faire que le Premier ministre aille dans le sens inverse que ce que dit sa ministre de l'Agriculture ?
Ben, peut-être le poids des mobilisations et à ce que les citoyens nous suivent, parce que quand on regarde quand même sur les réseaux sociaux ou même sur les points de blocage, on voit bien que nous avons les citoyens de notre côté, puisqu'on veut protéger aujourd'hui notre filière et notre agriculture.
La porte-parole de la Confédération paysanne en Haute-Garonne, Hélène Delmas, qui répondait aux questions France Info de Marc Potvin. Il est 5h39, le combat de deux parents à présent, combat douloureux du père et de la mère d'un ancien militaire de l'opération Barkhane. Pierre-Olivier Kleitz, un infirmier de l'armée qui s'est suicidé en prison il y a un an et demi. Il était soupçonné de meurtre sur une base française au Tchad. Bonjour Yannick Falt.
Bonjour.
Service police-justice de France Info, vous avez rencontré Yannick, les parents de ce militaire qui tente désormais de comprendre ce qui s'est passé au Tchad et à la prison de Fresnes.
Et c'est à Belfort que nous rencontrons Michel Kleitz et Christine et Lyon, divorcés depuis longtemps. Les sexagénaires tiennent à parler à deux voix pour celle de leur fils unique, adjudant-chef mort à 33 ans. Tout commence sur la base de Faya Largeau au nord du Tchad, dans un contexte de forte tension avec la France. Nous sommes le 5 septembre 2023. Un militaire tchadien civil vient se faire soigner.
Il m'a dit « Papa, j'ai tiré sur un homme, j'ai pas eu le choix parce qu'il m'a agressé. » Il m'a dit « Papa, j'ai fait les sommations, on est formé pour ça. » Et j'ai tiré dans le bas du corps pour pouvoir l'arrêter.
Il a toujours répété que c'était vraiment de la légitime défense, puisque le Tchadien lui avait fait une clé de bras. Il l'avait quand même planté au torse plusieurs fois, au cou et puis à l'arrière du crâne.
L'enquête confiée en France à un juge d'instruction contredit cette version. La section militaire du parquet de Paris évoque des blessures bénignes que Pierre-Olivier Kleitz a pu s'auto-infliger et plusieurs tirs mortels dans le dos du militaire tchadien.
Pierre-Olivier nous a dit qu'il y avait un deuxième tireur qui était là. Pierre-Olivier lui a dit « j'ai tiré » et le deuxième tireur lui a dit « t'inquiète pas, je l'ai fini, j'y ai mis une balle dans la tête ».
Pierre-Olivier l'a toujours souligné que c'était quelqu'un des forces spéciales. Qui me dit que ce soldat des forces spéciales n'a pas été protégé? Pourquoi il n'a pas été entendu? Pourquoi il s'est évaporé dans la nature et qu'on charge Pierre-Olivier de la sorte?
Et au-delà de ce qui s'est passé au Tchad, Yannick, c'est la suite qui choque aussi les parents.
Oui, car après son rapatriement en France, Pierre-Olivier Kleitz s'est d'abord hospitalisé, lui qui a déjà souffert d'un stress post-traumatique lors d'une précédente mission. Mis en arrêt de travail puis réformé de l'armée à sa demande, il retrouve un poste d'infirmier dans une clinique jusqu'à ce 24 avril 2024, 7 mois après les faits.
On a frappé chez lui à 6h du matin, 8 hommes avec gilet pare-balles. Hein. Pierre-Olivier a été menotté, il venait arrêter un grand terroriste qui a été médaillé par la France.
Après 48 heures de garde à vue, l'infirmier est mis en examen pour homicide volontaire, laissé libre sous contrôle judiciaire avant un appel du parquet et un nouveau rendez-vous judiciaire 3 semaines plus tard. Pierre-Olivier Kleitz est alors placé en détention provisoire, direction Fresnes, en région parisienne.
Le jeudi, à midi, le téléphone sonne. Il m'a dit « Papa, j'ai 3 minutes. S'il te plaît, sors-moi de là. » Qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait et qu'il n'allait pas tenir longtemps. Le samedi à 20h04, nous annonce que notre fils a mis fin à ses jours. Froidement par téléphone. Je n'ai jamais entendu une maman hurler comme j'ai entendu la maman de Pierre-Olivier hurler.
On a demandé à voir la cellule de Pierre-Olivier. On a tout de suite visualisé notre fils là, 4 jours, 4 nuits. Ça a été tout simplement... Il n'y a pas de mots en fait. Mon fils, il a été sacrifié.
Depuis, les parents de Pierre-Olivier Kleitz se battent pour connaître la vérité, multipliant les démarches avec leur avocat pour tenter d'accéder au dossier, pour savoir précisément ce qui s'est passé au Tchad, savoir pourquoi leur fils a été placé en détention provisoire, lui qui a été décoré 10 fois, pourquoi il n'a pas été incarcéré en milieu médicalisé, vu sa fragilité psychologique. Les parents de Pierre-Olivier Kleitz ont été reçus par le cabinet du ministre de la Justice il y a un mois, un rendez-vous glacial selon eux.
Et Yannick, cette affaire, elle mobilise aussi un député, pas n'importe lequel, c'est l'un des vice-présidents de la commission de la défense à l'Assemblée.
Oui, Loïc Carvran, député Horizon du Cher, il a écrit au Premier ministre pour demander une inspection administrative sur ce drame.
C'est arrivé jusqu'à moi dans le Berry, via le milieu des anciens militaires, des anciens des forces spéciales, etc. Je suis extrêmement choqué de la façon dont notre pays, la France, a échoué à protéger un militaire. Pourquoi cette décision d'incarcérer, qui crée beaucoup d'émoi dans le milieu militaire? Et normalement, les établissements pénitentiaires ont un certain nombre de moyens pour limiter le risque de suicide. Nous aimerions avoir des éclaircissements.
Contacté par France Info, Matignon explique que c'est à la demande de Sébastien Lecornu que le rendez-vous a été organisé au cabinet du garde des Sceaux en novembre. L'entourage de Gérald Darmanin répond de son côté que l'inspection générale de la justice n'est pas compétente sur les décisions médicales ou judiciaires. Mais les parents de Pierre-Olivier Kleitz veulent poursuivre leur combat. Il souhaite désormais rencontrer la procureure de Paris et envisage d'écrire à Emmanuel Macron. Et
Yannick Falt du service police-justice de France Info. Le compte à rebours est enclenché dans 18 minutes. Une fusée Ariane 6 doit décoller de Kourou en Guyane avec à son bord deux nouveaux satellites qui vont rejoindre la constellation Galiléo. Bonjour Thomas Pontillon.
Bonjour.
Expliquez-nous Thomas, ils servent à quoi ces satellites Galiléo ?
Ces satellites sont à 23 000 km au-dessus de nos têtes et pourtant on reçoit leur signal au quotidien dans nos poches. Le système Galiléo est connecté avec presque tous les téléphones portables. Il sert à la géolocalisation. Sans que vous vous en rendiez compte, votre smartphone capte en permanence les signaux de satellites, qu'ils soient européens ou américains, avec le système GPS. À l'usage pour le grand public, on ressent à peine la différence, si ce n'est que Galiléo permet de se localiser avec plus de précision, autour d'un mètre d'erreur contre 5 mètres pour son concurrent américain. Galiléo a même un service de haute précision capable de localiser un objet partout sur Terre à 20 cm près. Mais ce service est réservé à un usage professionnel.
Et ils servent à d'autres choses aussi ces satellites.
Au-delà de nous guider en voiture ou en randonnée, Galiléo est utile dans de nombreux domaines, le transport maritime, aérien, mais aussi pour des opérations de secours ou de sauvetage. Les satellites peuvent aussi servir à surveiller des failles sismiques, des volcans ou encore pour réaliser des prévisions météo. Les autorités européennes mettent aussi en avant la souveraineté pour ne pas dépendre uniquement du GPS américain ou des systèmes de géolocalisation russes et chinois.
Et Thomas, que vont apporter aujourd'hui ces deux nouveaux satellites dans l'espace ?
Plusieurs choses. D'abord, ils vont renforcer la constellation déjà composée de 30 satellites pour la rendre encore plus fiable, plus précise mais aussi plus sûre. La mission de ce matin doit notamment rendre le signal satellitaire plus robuste, notamment contre des possibles opérations de brouillage. Et puis, tout simplement, ces deux satellites vont en remplacer deux autres vieillissants. Il faut savoir que la durée de vie d'un satellite Galiléo est d'environ 12 ans. Il faut donc les renouveler. Ceux qui décollent ce matin seront d'ailleurs eux-mêmes remplacés dans l'espace d'ici à quelques années par des satellites de deuxième génération. Ils seront plus performants, assure le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Pour l'instant, ces futurs satellites sont encore en cours de développement.
Merci beaucoup Thomas Pontillon. Une deuxième affaire libyenne va peut-être renvoyer Nicolas Sarkozy devant un tribunal. Carla Bruni aussi pourrait être jugée. On vous explique tout après un nouveau point sur l'actu.
France Info. 5h-6h.
6h moins le quart, l'info en une minute avec Maureen Suignard. Et à la une, l'Assemblée nationale qui adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale.
Les députés entérinent ce texte qui comprend la suspension de la réforme des retraites. La prescription des arrêts de travail sera aussi désormais plafonnée à un mois pour une première prescription. Un congé de naissance sera aussi mis en place au 1er janvier et sera de 70% du salaire net le premier mois. Le gouvernement promet d'accélérer la vaccination contre la dermatose. Les 1000 exploitations de l'Ariège seront intégralement vaccinés au 31 décembre, affirme la ministre de l'Agriculture. Insuffisant pour les éleveurs qui se mobilisent ces derniers jours, ils s'opposent à l'abattage de toutes les bêtes si un animal du troupeau est malade. Si vous empruntez les lignes de train Paris-Clermont et Paris-Limoges-Toulouse, sachez que les prix ne vont pas augmenter l'année prochaine. Le gouvernement annonce que les tarifs seront gelés en 2026 en raison de la qualité de service jugée très dégradée. Près de 5 millions de voyageurs empruntent ces lignes chaque année. Et puis un possible nouveau titre pour le PSG dès ce soir. Cela serait le 6e en 2025 pour les Parisiens. Les joueurs jouent la finale de la Coupe Intercontinentale et affrontent le club de foot brésilien de Flamengo, les champions d'Amérique du Sud.
France Info.
Après le dossier libyen et son passage en prison, un nouveau procès est demandé contre Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier demande à ce que l'ex-chef de l'État soit jugé dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième affaire libyenne. La rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine. Et cette fois, Carla Bruni-Sarkozy est aussi concernée, tout comme la papesse de la presse People, Mimi Marchand. Bonjour Mathilde Lemaire.
Bonjour.
Service police-justice de France Info. Ce dossier, c'est donc l'affaire dans l'affaire.
Oui, l'affaire dans l'affaire libyenne. Certains protagonistes l'ont appelée aussi l'opération Sauver Sarko. Au total, le parquet demande le renvoi de 11 personnes, mais on retient évidemment surtout Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée et recel de subornation de témoins. Pour son épouse Carla Bruni, l'association de malfaiteurs est retenue dans ses réquisitions. C'est désormais au juge d'instruction de décider ou non leur renvoi en correctionnel. La question est de savoir si l'ex-couple présidentiel a tenté en 2020, par le biais de Mimi Marchand, de manœuvrer pour que le sulfureux intermédiaire libanais Ziad Takieddine, aujourd'hui décédé, retire son témoignage dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy. Ziad Takieddine avait en effet un temps fait volte-face, donnant une interview dans ce sens depuis Beyrouth à la chaîne d'info BFM TV, une autre à Paris Match. Si la manœuvre était avérée, cela voudrait dire qu'il y a eu tentative de tromper la justice.
Une nouvelle demande de procès qui ne risque donc pas d'améliorer les relations, Mathilde, entre Nicolas Sarkozy et le parquet national financier.
Oui, l'ancien président s'attaque dans son livre paru ce mois-ci au travail à charge du PNF quand il ne dénonce pas la haine sans limite des juges, l'injustice dont il dit porter la croix et qui lui donne envie de hurler. À la barre, il s'était demandé à voix haute si le parquet national financier n'avait pas été créé que pour lui. Il s'est dit traqué, victime d'un acharnement politique, d'un harcèlement judiciaire. Sur France Info, il y a deux semaines, Jean-François Bonnert, qui est à la tête du parquet national financier, a reproché à l'ex-chef de l'État, avec cette posture, de renverser la situation. Le procureur a rappelé que son parquet ne faisait pas de politique, n'en voulait certainement pas à Nicolas Sarkozy, mais traitait juste des infractions clairement définies par le code pénal.
Merci beaucoup Mathilde Lemaire. L'objectif est abandonné par l'Union européenne. Elle renonce à interdire à partir de 2035 la vente des voitures neuves équipées de moteurs thermiques ou hybrides, ceux qui marchent à l'essence ou au gasoil, dans des proportions encadrées tout de même avec des conditions. Pour se justifier, la Commission européenne elle met en avant la crise que traverse le secteur automobile de l'Union, mais renoncer à cet objectif c'est une erreur, selon Bastien Gebel, responsable décarbonation de l'industrie automobile à l'ONG Transport et Environnement.
Nous, on considère que c'est une erreur stratégique, en fait, que fait l'Union européenne et la Commission européenne en prenant cette décision. D'abord, bien sûr, une erreur d'un point de vue climatique. Les commissaires européens indiquent que toutes les émissions supplémentaires seront compensées, mais on peut très largement en douter, notamment sur les carburants alternatifs qui sont proposés et qui ne sont clairement pas des solutions durables et environnementales.
Ils sont responsables de moins d'émissions de dioxyde de carbone que les carburants additionnels, rappelle la Commission.
Alors, ils sont responsables de moins de CO2, peut-être, c'est vrai, dans certains cas, mais nous n'arrivons pas du tout à des résultats satisfaisants. On arrive à avoir 40, 50, 60% de réduction d'émissions de CO2 par rapport à des carburants fossiles. On est très, très loin de ce qu'est capable de réaliser l'électrique. Et donc, en fait, on est sur une mauvaise solution d'un point de vue environnemental, mais en fait aussi d'un point de vue industriel. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, puisqu'on assiste à un rétropédalage sur la dynamique d'électrification de l'automobile. Et en fait, il y a un certain paradoxe, parce que la Commission européenne et les constructeurs l'admettent, le futur de l'automobile, il est électrique. Et les constructeurs européens ont, sur l'électrique, affaire à une concurrence chinoise qui est absolument redoutable. Ils sont déjà en retard. Et donc là, le signal que leur envoie la Commission européenne, c'est qu'ils peuvent investir dans d'autres technologies que l'électrique et donc accentuer leur retard sur les concurrents chinois. Donc en fait, comment fait-on pour que demain, avec des pistes autant brouillées par la Commission européenne, notre industrie européenne soit compétitive par rapport à ses rivaux chinois sur l'électrique qui est consensuellement la technologie de demain?
Mais justement, cette décision de la Commission européenne, elle s'explique aussi par le souci de préserver la santé de l'industrie automobile. Ça a pesé dans la balance, ça.
Alors, pas tout à fait. Enfin, effectivement, c'est comme ça que le justifie la Commission européenne. Mais quand on regarde en termes de perte d'emploi, de désindustrialisation dans les différents pays, notamment en France, en fait, cette désindustrialisation, elle date pas du tout de la décision de 2019 d'avoir 100% de véhicules électriques en 2035. C'est en réalité un processus qui est en marche depuis le début des années 2000 et qui relève bien plus d'une délocalisation organisée par les constructeurs automobiles dans l'objectif de minimiser leurs coûts de production en produisant dans des pays à bas coûts de main-d'œuvre, que en fait le résultat de l'électrification. Et ensuite, le deuxième problème des constructeurs et la deuxième fausse hypothèse qui sous-tend cette décision prise par la Commission, c'est celle des volumes de voitures. En fait, les constructeurs automobiles sont à la peine, certains, parce que ils vendent de moins en moins de voitures. Mais là aussi, en réalité, c'est une stratégie qui a été mise en œuvre par les constructeurs, qui ne sont pas les grands méchants loups de l'histoire, mais qui cherchent à maximiser leurs profits qu'ils font sur les véhicules individuels et donc qui ont premiumisé leur gamme. Si on regarde le catalogue de Renault actuellement, c'est 75% de SUV qui sont vendus plus cher et donc les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire,
mais
c'est
justement,
mais aussi développer les modèles qui sont abordables pour les Européens pour qu'ils puissent basculer sur cette motorisation qui est bon pour leur portefeuille à l'usage.
Bastien Gebel de l'ONG Transport et Environnement qui répondait aux questions. France Info de Marc Potvin. On va danser le slow dans la playlist du jour de Maureen Suignard qui arrive dans un instant. Ce sera après l'actu éco d'Emmanuel Cudi. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Actualité économique en trois titres, voilà le premier. L'énergéticien français Engie s'apprête à céder une de ses filiales qui emploie 5000 personnes.
Oui, il s'agit d'Engie Home Services, l'entité du groupe chargée de l'installation, l'entretien et le dépannage des appareils de chauffage ou de climatisation. La cession annoncée de cette filiale suscite depuis des mois l'inquiétude notamment de la CGT qui a alerté les parlementaires sur le sujet. Pour l'instant, Engie annonce être entré en négociations exclusives pour une reprise par le fonds d'investissement français Latour Capital. La filiale en question réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Si l'opération est finalisée, cela ne serait pas avant la fin du premier semestre de l'année prochaine.
Un nouveau groupe chinois spécialisé dans les semi-conducteurs s'envole à la bourse de Shanghai.
Oui, c'est MetaX, fabricant de puces haut de gamme pour l'intelligence artificielle. MetaX a réalisé cette nuit une entrée fracassante sur le marché asiatique dès son introduction en bourse. Le titre a flambé de 750%, reflet des espoirs de voir la Chine rivaliser désormais avec le géant américain Nvidia. Alors cette cotation en fanfare de MetaX intervient moins de deux semaines après celle de Morsfeld, autre fabricant chinois de puces électroniques dont l'action avait grimpé quand même de 425% le jour de son introduction à la bourse de Shanghai.
C'est pas mal aussi. Et pendant ce temps, le chômage remonte aux États-Unis.
Et oui, en pleine bataille commerciale mondiale avec les droits de douane américains, le marché de l'emploi aux États-Unis a montré de vrais signes de dégradation au mois de novembre, avec une progression du taux de chômage à 4,6% de la population, au plus haut depuis 4 ans. Simultanément, les créations d'emplois outre-Atlantique continuent de ralentir.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info, ce sera le Brief Éco.
L'Assemblée nationale a donc définitivement adopté la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Le texte prévoit notamment une revalorisation des pensions de retraite, plus 0,9% pour les pensions de base dès le 1er janvier, 130 euros de plus par an pour les retraités et près de 3 milliards d'euros en moins pour les caisses de l'État.
Merci beaucoup Emmanuel, et voilà qui va peut-être vous rappeler des souvenirs, j'en suis sûr, à 5h56 sur France Info avec la playlist du jour. Avec vous, Maureen Suignard, vous nous ramenez tout droit dans les années 80.
Trois notes et nous voilà plongés dans une autre époque. Trois notes et voilà toute une génération de Français plongés dans leur chambre d'enfant ou d'ado où il y a un Walkman qui traîne à côté d'une VHS. Ces trois notes sont les premières de la bande originale de La Boum. Le film français cultissime est sorti il y a 45 ans, tout pile aujourd'hui. Ce long métrage qui lance la carrière de Sophie Marceau. Elle n'a que 13 ans à l'époque. Il raconte les émois d'une adolescente qui veut faire ses propres choix, diriger sa vie et vivre pleinement ses amours, grandir quoi. Et c'est un phénomène de société, plus de 4 millions d'entrées en France, 15 millions en Europe. Un film indissociable du morceau que l'on entend, Reality, créé par Vladimir Kosma, interprété par Richard Sanderson et qui nous parle d'amour. Ce slow a été spécialement créé pour la bande originale du film et elle aurait pu, William, être bien différente puisque le réalisateur Claude Pinotto et sa scénariste ont d'abord contacté le chanteur Michel Polnareff, mais il n'était pas dispo à ce moment-là. Il se tourne alors vers Vladimir Kosma, connu dans le milieu pour d'autres bandes originales. Kosma refuse aussi au début, il raconte des années plus tard qu'il ne voulait pas s'embêter avec un film sans vedette. Mais le producteur lui force la main, alors il se met à la recherche d'un anti-crooner, dit-il. Un chanteur qui n'avait pas de voix et qui n'en faisait pas des tonnes, ça doit faire plaisir à entendre. L'idée est d'avoir quelqu'un qui ait la voix du film, la voix de Sophie Marceau. Et un jour, Kosma tombe sur Richard Sanderson, qui est complètement inconnu. et il se dit que c'est l'homme qu'il lui faut. On a connu plus belle déclaration d'amour tout de même. En tout cas, c'est un triomphe. Là aussi, le titre est porté par le succès du film. En quelques semaines, plus de 8 millions de disques sont vendus dans le monde. Dreams are my reality. The only kind of reality. Maybe my foolish. Et vous, c'était comment votre première boum, William? Est-ce qu'il y avait eu un petit bisou?
Alors, je suis pas aussi vieux pour avoir eu.
Mais il y avait quand même des booms.
Il y avait évidemment des booms, mais je ne vous en parlerai pas à l'antenne, Maureen Finier. Voyons un petit peu d'intimité.
Je suis super déçue.
Christine Peña, je suis sûr que vous avez dansé un slow sur du Richard Sanderson.
Mais grave, hein.
Grave. Bon.
Et ça fait combien de temps déjà?
45 ans.
J'ai mal.
Oui, mais vous veniez de naître, je crois,
c'est ça,
Christine.
C'est ça. Bon, allez,
on vous retrouve pour votre météo dans un instant.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Christine Peña, c'est donc nuageux, mais sans pluie cette fois.
Pas de pluie, effectivement, pour aujourd'hui. Tout au plus de la bruine ce matin. On a pas mal de brouillard, mais les trois quarts du pays vont rester sous les nuages. Nous avons quand même le soleil qui revient, la bonne nouvelle. Il revient en Méditerranée après les pluies de ces dernières heures. Nous avons des brouillards également en Méditerranée, et notamment en vallée du Rhône. Ça va se lever, ça devrait se lever plus ou moins rapidement. Nous aurons donc du soleil des Pyrénées à la vallée du Rhône, les Alpes jusqu'au sud de l'Alsace, et des pluies qui reviennent par le Finistère dès cet après-midi. Le vent se souffle toujours en bord de Manche et nous aurons des températures un peu comme hier. 10 à Reims, 11 à Lille et Paris, 12 à Lyon, 14 à Clermont-Ferrand et Toulouse. Le plus doux, ça sera pour Perpignan, Nice et Toulon avec 17 degrés.
Merci beaucoup Christine Peña, il est presque 6h et c'est l'heure de vous retrouver Jérôme Chapuis, ça boum.
Mais bien sûr.
Non,
ça allait, t'étais... Je valide, je vous laisse d'ailleurs William.
Très bien.
Allez parler de vos premiers slows avec Maureen Suignard.
Oui, hors Badaboum,
antenne,
mes premiers
évidemment,
slows.
Bien sûr. Et puis vous revenez pour le journal de 7h tout à l'heure. Bonjour
à l'heure.
Christine Peña.
Bonjour à tous.
Solène Cressant, Maureen Suignard, toute l'équipe de l'info est avec moi pour ce 6-9 qui commence en ce mercredi